Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte cette série du média suivant, Bel Âge. Au programme, gare aux arnaques, la technologie pour tromper la solitude et foire aux questions. Bonne écoute.
Gare aux arnaques, un texte de Pascal Forget, paru en mars 2023 dans Bel Âge. Les cyberfraudeurs ont plus d'un tour dans leur sac pour voler l'argent des honnêtes gens. Voici comment flairer et éviter leurs pièges. Les logiciels malveillants. Un message indique qu'il faut installer une application pour consulter le contenu d'un site, regarder une vidéo ou jouer à un jeu. Après avoir suivi les instructions, l'ordinateur ne fonctionne plus aussi bien. Il se met à afficher des publicités. Le moteur de recherche n'est plus le même parce que le logiciel qu'on vient d'installer est malveillant. Il y en a plusieurs types. Virus, cheval de Troie, espiogiciel. Certains sont simplement dérangeants, mais d'autres peuvent voler les mots de passe de nos comptes, voire verrouiller notre ordinateur et nous demander une rançon pour le récupérer. Comment se protéger? En faisant les mises à jour de nos appareils quand elles sont proposées afin d'obtenir les plus récents correctifs de sécurité. En privilégiant les applications provenant du Apple Store, du Google Play Store Android, ou du Microsoft Store, qui sont vérifiés. En se méfiant des sites qui demandent d'installer des logiciels, surtout s'ils promettent un accès gratuit à du contenu normalement payant, films, matchs sportifs, etc., et des applications qui promettent de faire le ménage de notre appareil. Les fausses pages et publicités sur les réseaux sociaux. Louis-José Houd nous envoie un message privé pour nous inviter sur son site de fans secrets. Véronique Cloutier ou Ariane Moffat fait la promotion de pilules amincissantes. Attention, les fraudeurs n'hésitent pas à se faire passer pour des célébrités et à utiliser leur image pour attirer l'attention. Ils tentent ainsi de nous soutirer de l'argent en proposant des produits qu'on ne recevra jamais, des billets de spectacle qui n'existent pas, un abonnement VIP à un fan club fictif, ou en nous invitant à participer à une fausse collecte de fonds pour une œuvre de charité. Comment se protéger? En sachant que les célébrités ne contactent pas personnellement les gens du public, en retenant que les sites web officiels des artistes sont généralement établis depuis des années et fréquentés par des milliers d'abonnés. Sur Facebook, la plupart affichent un badge de vérification bleu. En consultant le site officiel d'une personnalité, avant de se procurer le produit inhabituel qu'elle annonce sur les réseaux sociaux, mieux vaut vérifier l'information à la source. L'appât sous forme de vidéo. Un message d'un ami sur les réseaux sociaux nous demande « Est-ce bien toi sur la vidéo ?» Or, pour voir la vidéo ou la photo en question, il faut cliquer un lien. Stop ! Il s'agit de voleurs d'identité qui tenteront ainsi d'installer un virus dans notre ordinateur, lequel transmettra à son tour le même message à nos contacts. Comment se protéger ? En ne cliquant jamais sur des liens qui demandent de réagir rapidement. Si possible, en contactant directement la personne par un autre moyen, courriel, téléphone, pour l'informer que son compte a probablement été piraté. En signalant tout message suspect. Sur Facebook, par exemple, il suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite du message et de choisir l'option « Signaler ». Si on a cliqué sur un lien malveillant, on change aussitôt le mot de passe de notre compte. L'attaque par mot de passe. Les pirates informatiques ont accès à différents outils pour deviner notre mot de passe. S'il est simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, notre date de naissance, notre adresse, etc., il ne faudra que quelques secondes pour le trouver. Le pirate peut alors prendre le contrôle de notre appareil, s'emparer de notre identité et de nos économies. Comment se protéger? En utilisant des mots de passe différents pour chacun de nos comptes. En excluant les informations personnelles de nos mots de passe, ça inclut aussi celles de notre conjoint, de nos enfants et d'autres informations faciles à trouver, comme le nom de notre équipe sportive préférée. En privilégiant, si possible, l'authentification biométrique, empreinte digitale, reconnaissance faciale, Face ID, pour s'identifier. En acceptant la double authentification si elle nous est proposée. Dès lors, si quelqu'un se connecte d'un appareil inhabituel, un code qu'on recevra par texto ou par courriel sera demandé. Ça facilite aussi la récupération de notre compte en cas de problème. Vous écoutez « Gare aux arnaques », un texte de Pascal Forget, paru en mars 2023, dans Bel Âge. L'arnaque amoureuse. Un beau militaire à la retraite, un prince étranger ou une jolie jeune femme célibataire nous contacte sur Facebook ou un site de rencontre. Au fil des semaines, nos échanges avec ce partenaire potentiel deviennent plus fréquents, plus intimes. Et c'est là que l'arnaque survient. La personne a soudainement un souci financier. Par exemple, elle a besoin d'argent pour soigner un enfant malade ou pour payer le billet d'avion afin de venir nous rejoindre. Bref, celui ou celle avec qui on échangeait virtuellement au quotidien est en fait toute une équipe qui se relaie pour nous faire rêver et mieux nous embobiner. Comment se protéger? En n'envoyant jamais d'argent, par virement bancaire, mandat ou autrement, à une personne rencontrée via Internet. En retenant ce principe, pour apprendre à se connaître, discuter par texto ou messenger est tout à fait normal au début d'une rencontre en ligne. Mais au bout d'un moment, une rencontre en personne, dans un endroit public ou par appel vidéo, s'impose. En gardant espoir, de belles rencontres avec de vraies personnes sont possibles sur Internet, mais ça peut prendre du temps. Le faux service technique. Quelqu'un qui prétend travailler pour Microsoft nous appelle ou nous texte pour signaler que notre ordinateur a été piraté ou infecté par un virus. Le fraudeur, car c'en est un, demande alors d'accéder à notre ordinateur pour résoudre ce problème fictif avant d'exiger ensuite un paiement. Comment se protéger? En s'abstenant de répondre ou en raccrochant immédiatement si on reçoit ce genre d'appel ou de message. En se rappelant que jamais Microsoft ou une autre entreprise ne nous contactera par téléphone ou texto si notre ordinateur est infecté. En ne composant jamais un numéro de téléphone figurant dans un message d'erreur. Le hameçonnage au bout d'un clic. L'arnaque commence par un texto ou un courriel qui semble provenir d'une entreprise connue, du gouvernement ou d'une institution bancaire. Il contient un lien sur lequel cliquer pour obtenir une somme d'argent, par exemple un remboursement d'impôts. Il peut aussi s'agir de confirmer ou d'annuler un paiement, ou encore de faire un don à une bonne cause. Si on clique sur le lien, on nous demandera des informations personnelles et peut-être également de confirmer notre numéro de compte bancaire. un logiciel malveillant pourrait aussi s'installer à notre insu sur notre appareil. Comment se protéger? En s'abstenant de cliquer sur un lien reçu sans avertissement. Dans le doute, on vérifie en se connectant à notre compte ou en téléphonant à l'entreprise concernée. En retenant qu'aucune entreprise légitime ne demande à ses clients de donner des informations par texto ou courriel. En sachant que des fraudeurs sans scrupules n'hésitent pas à profiter de l'actualité, guerre en Ukraine, catastrophe naturelle, pour nous inciter à cliquer. L'arnaque du président. On reçoit un message du patron nous invitant à faire un virement d'argent rapide dans un compte inhabituel sans en parler à personne. Le message peut aussi venir d'un collègue ou de quelqu'un qui se fait passer pour un proche en difficulté. La demande peut d'ailleurs être très crédible et contenir des informations tirées des réseaux sociaux à notre sujet, par exemple nos dates de vacances. Or, c'est un fraudeur qui attend la somme requise. Comment se protéger? En confirmant toute demande d'argent par un autre moyen, en personne, par téléphone ou appel vidéo, en se méfiant des demandes qui exigent une réaction immédiate. Que faire en cas de fraude? Contactez notre institution bancaire. Le numéro du service à la clientèle figure sur la carte de paiement ou de crédit. Elle pourra vérifier les paiements effectués et les bloquer au besoin. Consultez le Centre antifraude du Canada, antifraudecenter-centreantifraude.ca, une excellente ressource pour s'informer sur les fraudes qui circulent. Déposez une plainte à la police et au Centre antifraude. Ne pas effacer les messages reçus afin de faciliter l'enquête. En parler autour de soi pour éviter que d'autres se fassent avoir. C'était « Gare aux arnaques », un texte de Pascal Forget, paru en mars 2023 dans « Bel âge ».
La technologie pour tromper la solitude. Un texte de Pascal Forget paru dans Bel âge. Pour traverser la solitude, les ordis, applis et autres sont des alliés très appréciés. Nos suggestions pour en profiter au maximum. On se voit en ligne. Davantage à la mode depuis les mesures de confinement, les appels vidéo permettent aux interlocuteurs de se parler et de se voir. C'est simple comme un appel téléphonique et gratuit. La plupart des utilisateurs d'appareils Apple, Mac, iPhone et iPad se servent de l'application FaceTime qui permet de se parler à plusieurs. À partir de l'écran d'un appel, on appuie sur le signe « plus » en haut à droite de l'écran, puis on tape le nom d'un parent ou d'un ami qu'on veut ajouter à la conversation. L'application Duo de Google est une autre façon de faire des appels vidéo entre appareils iOS et Android avec jusqu'à 12 personnes. Pour l'utiliser, il faut s'inscrire avec un compte Google, Gmail. Les applications Skype de Microsoft, Messenger de Facebook et Hangouts de Google offrent également la possibilité de converser virtuellement avec nos proches. Il suffit de s'entendre sur laquelle utiliser. À retenir toutefois dans tous les cas, il ne faut jamais participer à une conversation vidéo lancée par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il s'agit probablement d'un fraudeur. On bouquine à la maison. Même si les bibliothèques sont fermées, on peut emprunter des livres numériques sans avoir à se déplacer. On les lit ensuite sur notre ordi, notre tablette, notre téléphone ou notre liseuse. Des magazines, des journaux, des livres audio, des cours en ligne et des ressources pour faire notre arbre généalogique sont aussi à notre disposition. Pour y accéder, on se rend sur le site de la bibliothèque de notre coin. Les réseaux de bibliothèques publiques en ligne comme biblietcie.ca et bibliomontréal.com peuvent nous aider à trouver la plus proche. On suit les instructions pour s'inscrire en consultant la partie Aide de la section des ressources numériques au besoin. La configuration initiale demande un peu de temps, mais il suffit par la suite d'entrer notre numéro d'utilisateur et notre mot de passe pour accéder rapidement au service. On va au cinéma sur son canapé. Si les sorties en salle nous manquent, on peut aller à netflixparty.com pour visionner un film avec nos amis. Simple comme bonjour, on démarre le film ou la série de notre choix et on clique sur l'icône de Netflix Party pour obtenir un lien à partager avec d'autres personnes. La diffusion est synchronisée par tous les auditeurs. Une fenêtre de clavardage permet même de commenter tout au long du visionnement. Chacun doit avoir un compte Netflix, utiliser le navigateur Chrome sur son ordinateur et faire son propre pop-corn. Se fier ou non à un site? Certains profitent du contexte actuel pour diffuser des rumeurs alarmantes et de fausses nouvelles sur les médias sociaux ou par courriel. Avant de s'inquiéter ou de partager une information, il est plus sage de vérifier auprès de sites crédibles, comme ceux des médias reconnus, journaldemontréal.com, lapresse.ca, tvanouvelles.ca, radio-canada.ca et de sites officiels québec.ca, canada.ca. Pour départager le vrai du faux, on visite le site de l'agence Science Presse, sciencepresse.qc.ca, ou celui des décrypteurs, ici.radio-canada.ca/décrypteurs au pluriel. C'était « La technologie pour tromper la solitude », un texte de Pascal Forget, paru dans Bel Âge.
Foire aux questions, un texte de Pascal Forget, paru dans Bel Âge. Réponse aux plus fréquentes interrogations sur la gestion des mots de passe, le stockage dans les nuages et les tentatives d'hameçonnage. La signature électronique est-elle sécuritaire? Après une transaction avec un conseiller de mon institution bancaire, on me demande une signature électronique via mon iPhone. Je voulais savoir si vous trouvez cette façon de faire sécuritaire ou non. Francine B. La réponse de Pascal. La signature électronique est une option qu'on nous propose de plus en plus à la signature de documents. La méthode est simple et sécuritaire et nous évite d'avoir à nous déplacer pour signer en personne. Il suffit de taper un code, de dessiner sa signature avec sa souris ou avec son doigt sur une tablette ou son téléphone, ou encore d'approuver en tapant « J'accepte » dans une case. On sera alors identifié par une connexion à notre compte. Le signataire doit évidemment s'assurer d'être bel et bien en contact avec un représentant de son institution. Une bonne idée est d'imprimer ou de demander une copie papier des documents au besoin. Pour une transaction importante, ou si on souhaite poser des questions supplémentaires à notre conseiller, on peut demander un rendez-vous pour signer en personne. Le choix nous appartient. Pourquoi utiliser des mots de passe différents? On suggère d'utiliser des mots de passe différents pour nos comptes informatiques. Pourtant, j'utilise toujours le même pour tous mes comptes. Et je n'ai jamais eu de problème. Jacques F. La réponse de Pascal. Ça peut sembler inutile, mais il est essentiel d'utiliser des mots de passe différents pour tous nos comptes. Si on se sert toujours du même ou de mots très semblables, un pirate pourrait accéder à toute notre vie numérique en cas de fuite de données d'un seul des services qu'on utilise. Et même si la plupart des sites assurent une bonne protection des données, des accidents peuvent arriver, comme des fuites de données dans certaines institutions bancaires. Pour se simplifier la vie, on peut profiter du gestionnaire de mots de passe de nos appareils ou de notre navigateur web qui nous propose des mots de passe complexes avec des chiffres, des majuscules et des caractères spéciaux et les garde en mémoire pour nous. Dans ce cas, nul besoin de les mémoriser. Ils nous seront automatiquement proposés lors de notre prochaine visite sur le site. Hameçonnage ou pas? J'ai reçu un message « Mise à jour des conditions d'utilisation de Microsoft. Est-ce qu'il s'agit d'une tentative d'hameçonnage ?» Louise P. La réponse de Pascal. C'est toujours une bonne chose de se méfier et de demander conseil en cas de doute. Les pirates informatiques envoient des messages qui semblent provenir d'une banque, d'un service informatique ou d'une entreprise nous invitant à cliquer pour entrer nos coordonnées et notre mot de passe dont ils se servent ensuite pour vider nos comptes. Ces messages étaient autrefois assez grossiers. On y trouvait même des fautes d'orthographe. Ce n'est plus le cas. Cela dit, les entreprises doivent régulièrement nous envoyer des informations par courriel pour des changements à leurs services, par exemple. Rappelons-nous toutefois qu'on ne nous demandera jamais de nous identifier en entrant notre mot de passe. On ne nous contactera pas non plus avec un courriel alarmiste. En cas de problème avec notre compte, on nous enverra plutôt une lettre par la poste. Dans le doute, mieux vaut ne pas suivre les liens dans le courriel et se connecter à notre compte normalement ou contacter notre institution par téléphone. Est-ce que j'ai un identifiant Google? En configurant mon téléphone, on me demande mon identifiant Google. Je ne sais pas si j'en ai un. Agathe C. La réponse de Pascal. On a probablement déjà un identifiant Google si on a une adresse acommercialgmail.com de Google, un téléphone Android ou un compte Gmail. De même, on a sans doute également un compte acommercialhotmail.com ou acommercialoutlook.com de Microsoft pour un ordinateur Windows et acommercialicloud.com pour un iPhone, un iPad ou un ordinateur Mac. Et oui, on peut avoir un compte pour les trois services. Pour simplifier la configuration de notre appareil, il est maintenant nécessaire d'entrer un identifiant. On nous demandera d'en créer un au besoin. C'est gratuit. Mais on l'oublie parfois. La solution, on le prend en note au moment de configurer notre nouvel appareil. Dans les nuages ou non? On me propose de sauvegarder mes fichiers dans iCloud. Ça m'inquiète. Mes documents ne sont-ils pas plus en sécurité dans mon téléphone? Marie C. La réponse de Pascal. Le stockage de nos fichiers, photos ou vidéos dans les nuages est vraiment pratique. En cas de bris, de perte ou de vol de notre appareil, on peut tout récupérer en entrant notre identifiant et notre mot de passe. Aussi, avec le même identifiant, on peut accéder à nos fichiers d'un appareil à l'autre, comme par magie. Outre iCloud d'Apple, Google, Google Drive et Microsoft OneDrive offrent aussi de l'espace de stockage gratuit dans leur serveur. Les fichiers y sont codés de façon sécuritaire. Personnellement, je ne pourrais plus me passer du stockage dans les nuages. Récupérer un mot de passe. J'ai oublié le mot de passe de mon compte de courriel. J'ai suivi les procédures à suivre et, après plusieurs tentatives et même après avoir reçu le code lorsqu'on me demande d'écrire les lettres à « Je ne suis pas un robot », il m'est impossible de continuer. Que faire? Lise M. La réponse de Pascal. Quand ce genre de situation survient, l'utilisation de l'option « mot de passe oublié » est effectivement une bonne idée. On nous posera alors des questions pour authentifier notre compte, mais si on se trompe plusieurs fois, l'accès nous sera interdit. Fâcheux, mais rappelons-nous que cette précaution sert à empêcher un pirate d'essayer toutes les combinaisons possibles. La meilleure chose à faire dans ce cas est de répéter les étapes le lendemain à tête reposée. On songe ensuite à noter notre nouveau mot de passe sur un bout de papier qu'on ne laisse pas à côté de notre ordinateur. Si on nous l'offre, on en profite pour activer l'option de double authentification qui fait qu'on recevra ensuite un code par téléphone pour nous aider à récupérer notre compte. Heureusement, à l'avenir, on devrait avoir de moins en moins besoin de mots de passe. De plus en plus de services permettent en effet de s'identifier avec un code qu'on reçoit par texto ou par courriel. De quoi donner un répit à nos ménages. C'était « Foire aux questions », un texte de Pascal Forget, paru dans Bel Âge.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.musevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Jocelyne Angevin à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.